podcast de Radio Vatican.
Il est urgent de réagir en unissant les forces contre la menace djihadiste dans le Sahel. C'est la conclusion d'une rencontre extraordinaire qui s'est tenue à Bamako les 5 et 6 février, réunissant les pays du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Un sommet convoqué par le président malien quelques jours seulement après deux attaques meurtrières dans le nord du Mali. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire qui se dégrade au Mali et son impact sur les autres pays de la région. Le territoire malien sert de base de repli aux groupes terroristes selon un document de travail issu de cette rencontre. En réponse, le Niger, le Burkina Faso et le Mali proposent de créer une force conjointe pour lutter contre l'insécurité. Proposition insuffisante face à l'ampleur des besoins en développement d'une région en proie à de nombreuses fragilités économiques et politiques en plus de sécuritaires. C'est l'analyse de Serge Mikhaïlov. Il est chercheur associé à l'IRIS spécialiste de l'Afrique.
La situation sécuritaire au Mali qui est assez dégradée, se transfère déjà sur les pays voisins, d'autant que tous les pays du Sahel sont actuellement confrontés, à des menaces sécuritaires extérieures qui s'ajoutent à une situation interne qui est quand même extrêmement fragile dans la mesure où ce sont des pays dont l'économie est quand même très, très petite, qui sont soumis à des aléas climatiques considérables, qui n'ont pas les moyens de conduire à la fois des politiques de développement et des politiques de défense très structurées. Alors à ça, il y a le cas particulier du Mali qui est très inquiétant dans la mesure où le processus de paix est complètement enlisé avec l'accord d'Alger. La situation au nord du Mali est quand même très dégradée et de par l'abondance des milices qui se combattent et qui sont en rivalité pour le contrôle des trafics transsahariens. Mais la plus grande inquiétude, c'est évidemment le développement de la sécurité dans le centre du Mali. Vous avez d'abord de nouvelles milices qui ne sont pas liées aux groupes djihadistes du Nord. Et puis, la disparition pratiquement de l'appareil d'État dans cette région et le fait que les villages sont en train d'organiser leurs propres milices, etc. Donc on a un début de processus de chaotique qui se produit dans le centre du Mali. Alors on ne peut pas non plus, ça c'est des azades, ne peuvent pas non plus demander à des armées extérieures comme l'armée française de l'ancien colonisateur d'intervenir dans une région de ce genre qui est très peuplée, où si l'armée française intervient, il va y avoir des dommages collatéraux, il va surtout y avoir des réactions politiques très très agréables. Donc c'est à eux de s'organiser, effectivement, de mieux verrouiller leurs frontières, mais ça leur est extrêmement difficile de par la taille de ces pays, la faiblesse de leurs moyens, et il faut pas oublier que l'armée française, le système Barkhane, l'opération Barkhane, c'est 4000 hommes et c'est censé surveiller un territoire qui doit faire 4 à 5 fois la surface de la France. Donc on voit bien que c'est pas à la mesure d'une intervention française ou européenne, c'est un problème d'organisation des pays eux-mêmes qu'il va falloir sans doute aussi aider et financer pour cela. Mais là, il y a un très gros problème de reprise en main de l'administration et de l'appareil régalien malien par son gouvernement.
Alors justement, les chefs d'État du G5 Sahel étudient l'idée d'une force commune pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Est-ce que c'est une vraie solution ?
On voit bien que l'armée malienne est en difficulté. Ce qu'on voit également, c'est que les forces des Nations Unies, la MINUSMA, ça fonctionne pas. Il y a 11 000 hommes qui sont financés à grands frais par les Nations Unies et qui sont littéralement terrés dans leur campement, qui se prennent quelques obus de mortier toutes les semaines et qui ont déjà eu plus de 110 tués depuis leur installation. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect purement sécuritaire, à savoir la difficulté de l'armée malienne, la difficulté de ces pays au niveau de la sous-région à financer et faire fonctionner, leurs armées qui sont sous-dotées en équipement. Ça coûte très cher d'entretenir une armée active, confrontée à des menaces externes par les groupes djihadistes comme Boko Haram pour le Niger et comme les groupes qui descendent depuis le Fezzan libyen. Ça représente facilement 6,5 ou 7% de leur PIB. Pour ces pays, c'est un fardeau budgétaire absolument insupportable. Donc ils ont cette question-là. Il va falloir que l'aide internationale, d'ailleurs, prenne en charge une partie de ces coûts, parce que c'est pas possible à ces pays de supporter des charges de sécurité à ce niveau-là.
Alors oui, quels sont les autres aspects de cette instabilité dans la région du Sahel ?
Alors l'autre aspect, c'est que l'aspect militaire, à proprement parler, n'est que l'un des éléments d'équation, l'autre élément étant que on a des environnements régionaux dans ces coins-là qui ont été oubliés de l'État depuis très longtemps, dans lesquels l'agriculture est en panne, il n'y a pas de boulot pour les jeunes, les infrastructures sont défaillantes, il n'y a pas d'électricité, l'eau potable, il y en a dans un village sur deux. Donc il faut, parallèlement aux actions militaires, conduire des actions de développement très ambitieuses et de façon beaucoup plus efficace que par le passé, parce que le Mali a digéré pendant une décennie avant 2012 à peu près 1 milliard de dollars d'aide internationale pour se retrouver dans la situation où il est aujourd'hui. Bon, c'est pas seulement un problème de volume, c'est un problème de bon ciblage et de bonne gestion de cette aide. Je vais vous donner quand même un chiffre qui laisse rêveur, c'est que, vous savez, il y a eu en octobre 2015 une conférence des donateurs du Mali organisée à Paris. Et cette conférence est engagée à apporter au Mali 3,4 milliards d'euros sur environ 4 à 5 ans. Bon. Quand on fait l'analyse de la destination de ces milliards d'euros, ça veut dire que moins de 4% est consacré à l'agriculture et au développement rural. Bon, on se tape la tête contre les murs. C'est un pays, le Mali est un pays à 75% rural. Je dirais qu'il aurait fallu que la moitié de ces ressources aillent au développement rural. Ben non, les donateurs en ont dessiné autrement. Et comme rien ne va non plus au renforcement des systèmes régaliens, sinon une epsilonesque petite broutille qui va pour essayer de renforcer un petit bout de la justice malienne, qui est complètement capillotable dans les zones rurales, on voit bien que l'aide extérieure, c'est le problème, c'est pas un problème de ressources maintenant, c'est un problème de bon ciblage et de bonne gestion.
Mais la force Barkhane est quand même efficace.
Et la force Barkhane est efficace, mais c'est pas 4000 hommes sur une surface qui représente 6 ou 7 fois la France qui peuvent changer véritablement la donne. Ils peuvent casser une colonne des djihadistes, ils peuvent bombarder 3-4 pick-up qui appartiennent effectivement à une mouvance djihadiste, mais ils vont pas s'occuper d'assurer la gendarmerie, la justice, l'administration territoriale. Ça s'appellerait la recolonisation. La France prend l'aspect sous un plan purement militaire, mais son aide au Sahel représente à peu près 1/100 de son aide publique au développement. Donc il y a un disconnect total entre les allocations de l'aide française et puis les urgences géopolitiques. Le problème, il va falloir que les Maliens reconstruisent leur appareil régalien. Pour ça, il faut que des ressources soient ciblées vers ce genre de choses. Or, il faut également créer des emplois pour les jeunes, en particulier dans le secteur rural, qui est le premier employeur. Bon, le secteur rural, l'aide internationale, c'est moins de 4% de l'aide qui va au secteur rural, ce qui est un non-sens, et 0,3% environ va à l'aide à la reconstruction des institutions régaliennes. Donc on s'en fout du monde, on est complètement à côté de la plaque.
Il y a aussi la question de la démographie, elle est inquiétante au Sahel.
La démographie est inquiétante dans tous ces pays, puisqu'aucun de ces pays n'a effectué sa transition démographique. Donc ils sont tous, que ce soit le Mali, le Tchad ou le Niger, ou le Burkina, avec des taux de fécondité qui sont au-dessus de 7, alors jusqu'à 7,6 pour le Niger. Ça veut dire que la population double tous les 18 ans à peu près, et que des pays qui avaient 3 millions d'habitants à l'indépendance en ont aujourd'hui 20, en auront 42, 45 dans 20 ans, et en auront 60 à 90 dans 35 ans. Donc on est dans un domaine également où il faut agir. Alors les bailleurs de fonds, ce que je remarque, c'est qu'ils n'agissent pas en eux-mêmes. Bush Junior et Trump ont interdit d'ailleurs aux organisations internationales bénéficiant de financement américain de s'occuper de ces questions-là. Alors voilà où on en est aujourd'hui.
Mais alors, juste pour bien comprendre, est-ce que c'est l'aide au développement qui va permettre de combattre vraiment le terrorisme, ou c'est parce qu'il y a ce problème lié au développement qui crée ce terrain de terrorisme?
Disons que l'absence de développement dans les milieux ruraux du Sahel, ceci depuis longtemps, crée une insatisfaction grandissante au niveau des jeunes qui en particulier ne trouvent plus à s'employer, et c'est un terreau qui est évidemment extraordinairement favorable pour des djihadistes qui par ailleurs contrôlent, je dirais, les zones de trafic avec l'Algérie et la Libye, et je dirais représente une menace existentielle pour ces régimes, sans oublier que les masses rurales sont en train de se tourner vers le salafisme de façon générale. Et donc la situation est, à proprement parler, explosive et extrêmement dangereuse.
Et sur le reste de l'Afrique et l'international, quel est l'impact de l'instabilité du Sahel?
Disons que si le Sahel venait à imploser, c'est parti pour, là. si on raisonne à l'échéance de 10 ans, il va y avoir une désorganisation de l'économie, il va y avoir des troubles multiples. L'exemple de type étant offert par le développement de Boko Haram au cours des années passées, et tout ceci va provoquer évidemment des migrations vers les pays du Sud, sachant que l'Afrique côtière, qui elle se développe assez rapidement, qui a moins de problèmes que l'Afrique sahélienne, qui a de meilleures conditions écologiques en particulier, elle est également soumise à une croissance démographique importante, à des migrations déjà importantes, et on a vu ce que des migrations très importantes ont pu provoquer en Côte d'Ivoire comme troubles politiques, ont contribué aux troubles politiques entre 1997 et 2010. Donc ce ne sont plus les pays vides comme il y a 40 ans ou 30 ans. Et toute migration massive des pays du Sahel, qui va être incontournable si on continue comme ça, aura un effet majeur sur la stabilité des pays d'Afrique de l'Ouest, y compris le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal.